Juste avant d'aller justement regarder comment ça se passe sur les instruments et sur le marché notamment, je veux juste montrer quelle est la situation dans l'Union européenne. Bon, c'est il y a quelques années, mais ça ne change pas très vite, hein. En gros, dans l'Union européenne, le plus gros émetteur, évidemment, c'est l'Allemagne, ça, c'est pas très surprenant. Et puis après, le Royaume-Uni, l'Italie, la France. Vous voyez que la France émet assez peu. C'est aussi pour ça que toutes les propositions qui visent l'Union européenne et qui émanent des Français sont toujours regardées avec une certaine suspicion par nos partenaires, parce qu'ils disent: ah ben oui, évidemment, vous, c'est trop un peu facile de nous demander d'appliquer des politiques qui vous coûteraient moins cher qu'aux autres. Hein. Donc, bon, et ça, c'est évidemment le nucléaire qui est la cause de cet écart. Vous voyez que par exemple, l'Espagne émet presque autant que la France, alors que c'est une économie beaucoup plus petite, et c'est quand même 20 millions d'habitants moins que la France, etc. Et la Pologne, par exemple, émet beaucoup aussi, etc. Enfin bon, donc il y a des intérêts qui sont pas les mêmes dans tous les pays. Et quand on regarde justement comment les différents pays ont mis en œuvre le protocole de Kyoto, avant de regarder un peu comment fonctionnent les instruments, on s'aperçoit qu'il y a des écarts énormes entre les différents pays. Vous voyez qu'en fait, sur ce graphique, on a les cibles de Kyoto qui sont en foncé, et puis la performance jusqu'à 2007, c'est-à-dire jusqu'à la crise. Après, je parlerai un peu de la crise, parce que c'est intéressant ce qui s'est passé depuis 2007, évidemment. Et jusqu'à la crise, on peut dire, ben, en fait, l'essentiel des réductions, comme je le disais, c'est l'Europe de l'Est. C'est-à-dire, c'est tous ces pays-là, ici. Et c'est juste l'effondrement de leur industrie lourde dans les années 90 qui explique ça. Si on regarde dans l'Europe de l'Ouest, au contraire, ben on voit que l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, l'Autriche, presque tous les pays pulvérisent leur objectif de Kyoto. La France fait un petit peu mieux que son objectif de Kyoto, l'Allemagne aussi, mais voilà, donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a des pays, l'Italie, très mauvaise performance, etc., etc. Et alors, d'où ça vient? Si on regarde les différents secteurs, on s'aperçoit que on a fait beaucoup de progrès dans les secteurs, disons, des industries lourdes, et puis de l'énergie, des déchets, etc. Même dans le domaine de l'agriculture, on a réduit les émissions assez sensiblement. En revanche, il y a un secteur, enfin deux secteurs. Il y a la production d'énergie, d'une part, et puis le transport, et notamment le transport terrestre, qui explose complètement en termes d'émissions. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire dans le domaine du transport, on a mis en place des normes techniques, mais on n'a pas vraiment agi sur les prix. Et donc, on voit que le transport terrestre, notamment, qui représente à peu près 20% des émissions totales, et particulièrement donc les véhicules individuels, ça augmente très très rapidement pendant toute cette période, et ça continue à augmenter. Une petite parenthèse d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup du transport aérien. Le transport aérien, évidemment, par passager, c'est beaucoup, mais d'émissions, je veux dire. Mais ça représente une toute petite part des transports, et donc pour l'instant, ça représente moins de 3% du total. Donc, ça augmente très vite, mais ça reste quand même une petite part. La plus grosse part, c'est quand même le transport routier individuel et marchandises. Alors, la question, c'est: est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut concevoir d'avoir une croissance économique qui reste soutenue, et en même temps de réduire les émissions de gaz à effet de serre? C'est finalement la grande question à laquelle on se heurte aujourd'hui. Et comme je le disais tout à l'heure en introduction, il y a beaucoup de gens parmi les écologistes, etc., qui disent non, ça n'est pas possible. Il va falloir se résoudre à la décroissance, c'est-à-dire il va falloir abandonner l'idée que le niveau de vie va continuer à augmenter indéfiniment et s'orienter vers une économie au contraire, dans laquelle on se contente de peu. Certains disent on va retourner au char à bœuf, à la bougie, etc. C'est pas, à mon avis, c'est ni la plus efficace, ni la plus souhaitable des solutions. Et donc, ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'on peut réduire ce qu'on appelle l'intensité carbonique de la production, c'est-à-dire, en fait, choisir des technologies qui permettent de produire plus qu'avant, tout en émettant moins de gaz carbonique. Et si on compare déjà la situation dans les différents pays, on s'aperçoit que déjà aujourd'hui, les écarts d'intensité carbonique sont considérables. Ici, c'est mesuré simplement par la quantité d'émissions par unité de produit, si vous voulez. Et on voit que des pays comme la Suède, la France, ont des intensités carboniques très basses, et qu'à l'inverse, la Chine a une intensité carbonique qui est pratiquement le triple de celle de la France. Donc, ça veut dire que par unité de produit, il y a des pays qui émettent beaucoup de carbone et d'autres peu de carbone. Donc, ça veut dire qu'il y a des choix possibles dans ce domaine-là. Vous voyez que l'Australie, le Canada et les États-Unis sont dans une situation intermédiaire. Et quand on regarde historiquement, on s'aperçoit que les pays européens, depuis le début des années 70, ont effectivement beaucoup réduit leur intensité carbonique, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont réussi à peu près à stabiliser leurs émissions de gaz à effet de serre tout en ayant une croissance économique qui est restée quand même relativement soutenue depuis une quarantaine d'années, même si elle est moins rapide que dans les années 60, elle est restée quand même positive pendant toute cette période. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de la France, c'est le cas de la Belgique, c'est le cas du Danemark. Donc sur ce graphique, vous voyez qu'on a à la fois les émissions qui sont même en baisse dans certains pays ou stabilisées. On voit en France, la montée en puissance du nucléaire est très claire. C'est ça qui fait baisser l'intensité carbonique entre, disons, 77 et 90. Donc, on voit que c'est possible. Après, la question, c'est comment ? Ça, c'est la même chose, mais pour l'ensemble de l'Union européenne. Donc là aussi, on voit que c'est tout à fait possible. Mais, là où je dis que pour l'instant, ces performances sont un peu en trompe-l'œil malgré tout, c'est que, en fait, on mesure l'intensité carbonique de la production. Or, ce qui s'est passé en Europe, dans une certaine mesure, depuis notamment une vingtaine d'années, c'est qu'on a délocalisé massivement les industries les plus émettrices de gaz à effet de serre vers le reste du monde, mais qu'on continue à importer ces produits-là du reste du monde. Donc, si on regarde l'intensité carbonique non plus en termes de production, mais en termes de consommation, c'est-à-dire quelle est la quantité de carbone émise par les biens que nous consommons, pas par ceux que nous produisons en Europe, mais ceux que nous consommons en Europe, y compris ceux qui sont importés du reste du monde, et notamment de Chine. Alors là, l'image est beaucoup moins flatteuse, parce que vous voyez qu'en fait, si on tient compte des émissions importées, en quelque sorte, c'est-à-dire celles qui sont, en quelque sorte, nécessaires pour fabriquer les produits que nous importons, eh bien, on voit qu'évidemment, ça, pour certains pays, ça fait plus que doubler le total de leurs émissions. Vous voyez que la Belgique, par exemple, ça fait plus que doubler. Dans le cas même de la France, c'est presque doublé, etc. Donc, il y a un biais dans la manière dont on mesure ça. C'est-à-dire, si on le mesure en termes de production sur le sol européen, on a fait des progrès, mais c'est parce qu'on a été envoyé ailleurs les industries les plus polluantes, en fait. Tout simplement. Les cimenteries, l'aluminium, toutes ces choses-là, on ne les produit plus en France. On produit du ciment encore un peu, mais l'aluminium, il n'y en a plus guère. Comme vous savez, Rio Tinto est en train d'essayer de brader sa dernière usine. Et puis bientôt, les aciéries, ce sera pareil, ce qu'on est en train de faire avec Florange, etc. Tout ça, ça participe de cette longue évolution qu'on observe depuis une trentaine d'années, qui est que toutes ces industries-là s'en vont là où l'énergie est moins chère, forcément. Forcément. Et du coup, évidemment, ça ne veut pas dire que nous, on ne les consomme pas. Ça veut dire qu'elles sont produites ailleurs et consommées chez nous quand même. Donc, au fond, il y a quand même un problème, c'est que la demande pour ces produits carbonés est encore très forte, y compris de chez nous. Et donc là, à nouveau, on voit que ce problème de prix est encore plus compliqué, si je puis dire, que ce qu'on pensait. Parce que si on impose un prix plus élevé pour les producteurs qui sont en Europe, un prix du carbone plus élevé, on risque de tuer leur compétitivité, de les inciter à se délocaliser vers d'autres pays et à continuer à émettre autant. Et donc, on n'aura pas le bénéfice d'une réduction des gaz à effet de serre, mais on aura les pertes d'emplois, les pertes de compétitivité. Donc, c'est la double peine, en quelque sorte. Et donc, ce n'est pas la bonne solution. Et c'est pour ça que je vais critiquer les solutions qui ont été mises en œuvre jusqu'à présent. Bon, ça, c'est des trucs qui ne sont pas très importants. Bon, ça, c'était la question de la voiture, mais venons-en au marché du carbone. Donc, la solution que l'Europe a adoptée, c'est la création d'un marché du carbone. Ce marché du carbone, c'est quelque chose qui, dans son principe, est très simple, même si c'est apparemment compliqué. Alors, je vais expliquer en deux mots. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qu'on appelle... alors, en anglais, c'est plus parlant, parce qu'en français, malheureusement, on dit marché du carbone, on dit droit à polluer, droit d'émission, quota d'émission, etc., qui ne sont pas des termes, d'abord, très bien connotés, et puis qui ne sont pas non plus complètement clairs, parce qu'on ne voit pas très bien ce qu'on est en train d'échanger. Voilà. En anglais, on parle de cap and trade. Cap, ça veut dire on plafonne les émissions totales. Et trade, ça veut dire on échange. Hein. Et dans ce terme cap and trade, on comprend mieux que ce qui est important, c'est cap, c'est-à-dire les autorités publiques fixent le total des émissions autorisées pendant une période. Par exemple, un an. On dit cette année, dans l'Union européenne, les industriels n'auront pas le droit d'émettre plus que tant de tonnes de gaz à effet de serre. Ça, c'est la première étape. Ensuite, deuxième étape, trade, l'échange. On distribue ces droits selon une clé de répartition, généralement sur la base des émissions passées, c'est-à-dire, on dit à Florence, vous avez émis tant l'année dernière, voilà quels sont vos droits à émettre cette année, voilà la quantité que vous avez le droit d'émettre cette année, etc., etc. Et pour l'instant, ces distributions se font gratuitement. C'est-à-dire, pour l'instant, on distribue à 12 000 établissements industriels en Europe des droits à émettre des quantités de gaz à effet de serre, comme ça, gratuit. Bon. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut vérifier évidemment que chaque établissement industriel respecte bien les droits. C'est-à-dire, s'il émet plus, il faut qu'il achète à d'autres le droit d'émettre plus. S'il émet moins, il a des droits excédentaires qu'il peut vendre. Et c'est là qu'intervient le marché. Le marché, c'est l'endroit où justement les industriels peuvent échanger ces droits. Ceux qui en ont trop, par exemple M. Mittal cette année, comme il a mis Florange en stand-by, il a des droits à polluer qu'il n'utilise pas, il va sur le marché du carbone, il les vend. Ça lui rapporte de l'argent. Sauf que là, ça ne lui rapporte pas grand-chose parce qu'on va voir que le prix est vraiment presque zéro. Mais si le prix était élevé, ça lui rapporterait beaucoup. Et en face, il y a d'autres gens qui, eux, ont émis plus que ce qu'ils pensaient parce que l'activité a été bonne ou parce qu'ils ont eu un problème industriel ou je ne sais pas quoi. Et eux, ils ont besoin d'acheter des droits. Et donc, ils vont sur le marché pour demander. Et sur le marché, donc, comme il y a ces offreurs et ces demandeurs, il va y avoir un prix. Le prix qui équilibre l'offre et la demande. Exactement comme sur un marché financier. Quotidiennement, il y a ces droits à émettre qui sont... il y a aussi, comme sur les marchés financiers, il y a de la spéculation. C'est-à-dire, il y a des gens qui se disent, tiens, ben, j'achète aujourd'hui parce que je pense que ça va monter demain. Ou aujourd'hui, au contraire, je vends à découvert parce que je pense que ça va diminuer, ça va baisser demain, etc., etc. Donc, il y a énormément de spéculation sur ce marché. Il y a aussi de la fraude, puisque, comme vous savez, il y a eu une énorme fraude à la TVA l'année dernière qui a obligé l'Union européenne à fermer le marché pendant plusieurs semaines parce qu'il y avait des montages absolument épouvantables avec des gens qui trafiquaient du quota de carbone et payaient pas de TVA dans certains pays pour leur vendre dans d'autres, etc. Enfin, bon, comme sur n'importe quel marché, évidemment, il y a des truands. C'est inévitable. Dès que vous avez un marché, vous avez des gens qui essaient de profiter des failles, de la réglementation ou de la surveillance. Bon. Donc, pas plus, pas moins. Mais le problème ici, c'est que ce marché fonctionne mal parce que la Commission le gère mal. Et ça, c'est vraiment un problème sérieux. La Commission croit que sous prétexte qu'elle a créé un marché, après, il faut laisser ce marché fonctionner tout seul parce qu'il y a une espèce d'idolâtrie du marché à Bruxelles. Vous savez que tout le monde pense à Bruxelles que le marché, c'est bien et qu'on n'a pas à interférer avec le marché. Bon, ils ont juste oublié que c'est eux qui l'avaient créé et que c'est eux aussi qui gèrent l'offre globale sur le marché, puisque c'est eux qui décident chaque année, ou plutôt chaque 3 ans, quelle est la quantité totale de permis qu'on va mettre sur le marché. C'est l'objet à chaque fois d'une négociation avec les États nationaux, mais c'est la Commission qui décide. Alors, si on regarde historiquement ce qui s'est passé avec ce marché, il a été créé en 2005. On a d'abord lancé une phase qu'on appelle expérimentale, de 2005 à 2008. On a dit, on va jouer un peu pour de faux. Donc les quotas sont gratuits, on vous les distribue, puis on regarde ce qui se passe. Bon. Et ce qui s'est passé, au début, c'était pas mal. Ça bougeait un peu beaucoup. Vous voyez que ici, en bleu, vous avez le prix de la tonne de carbone sur le marché européen. C'est un peu volatile, mais bon, parce qu'il faut que les gens apprennent, ça tâtonne. C'est comme quand on fait des petits jeux avec les étudiants pour des petits jeux de marché. Au début, les gens ne savent pas trop et tout, puis après, ils apprennent. Bon. Et vous voyez que le prix était autour de 25 euros la tonne. Bon, c'était à peu près ce qu'on attendait. Et puis tout d'un coup, la Commission européenne publie un communiqué en juin 2006 disant qu'elle s'est aperçue qu'elle avait mis trop de quotas sur le marché par rapport à ce qui va être nécessaire. Donc du coup, le prix s'effondre évidemment. Donc on voit que le prix tombe à 15, en gros. Pendant un petit moment, on est autour de 15. Bon, puis là ça se calme. Et puis, la Commission européenne, en décembre 2006, dit « Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, à partir de fin 2008, fin 2007, pardon, les quotas qui ont été émis sur cette période probatoire n'auront plus de valeur. C'est-à-dire, ils vaudront zéro. Donc, c'était juste pour faire semblant, en quelque sorte. Et alors, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le prix tombe à zéro, forcément. Puisque la Commission a dit « Il y en a trop ». D'abord, puis ensuite la Commission dit « Ah ben, de toute façon, ils vaudront zéro à partir du 1er janvier 2008. » Alors, c'est comme si on vous disait que vos billets de 5 euros à partir de la semaine prochaine valent zéro. Je peux vous dire que vous allez vous dépêcher de vous en débarrasser. À force d'essayer de vous les refiler, vous finirez par vous les refiler pour moins de 5 euros parce que vous direz tiens, je le file pour 4 euros parce que 4 euros, c'est mieux que zéro. Et puis après, 3 euros, puis 2 euros, puis il sera à zéro. Il sera à zéro dès maintenant. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire, si vous dites aux gens, ça ne vaudra plus rien à partir du 1er janvier 2008, les gens, à partir du moment où ils le savent, se disent, il y en a trop et ça ne vaut plus rien, donc ça ne vaut déjà plus rien. Et donc, on voit que le prix tombe à zéro. Et donc, toute l'année 2007 a été une catastrophe, parce qu'évidemment, il n'y avait plus de... Vous voyez d'ailleurs que les gens se sont mis à essayer... Les barres noires, c'est les volumes de transactions sur le marché. Vous voyez qu'au moment où tout le monde se rend compte que ça va valoir zéro dans un an, tout le monde essaie de s'en débarrasser. Du coup, il y a des ventes, des volumes énormes, forcément. Parce que tout le monde se dit, oh là là, il y en a trop, ça leur brûle les doigts. Bon. Donc, première période, catastrophe. Deuxième période, à partir de 2008, la Commission dit, maintenant, on va faire les choses un peu plus sérieusement. On va en mettre moins sur le marché. Et puis, on ne va pas donner de limite de péremption pour les quotas. Bon. Et du coup, le début de la période se passe plutôt bien. On a à nouveau un prix qui est autour de 25 euros. Il monte même pendant la phase de 2008, qui est la phase de... Où la croissance est forte en Europe, avant la crise. Et c'est la période aussi où le prix du baril monte. Ça va avec le prix du baril, d'ailleurs. Et puis, le prix du baril commence à baisser, tout le monde commence à comprendre qu'il va y avoir une récession. Donc, le prix commence à baisser, vous voyez. Et puis là, septembre 2008, c'est la crise financière, la faillite de Lehman Brothers, etc. C'est le début de la grande crise de 2008-2009, et là on voit la récession et le prix s'effondre littéralement. Et on voit que pendant la récession, évidemment, pas étonnant, puisqu'il n'y a plus de demande, puisque les industriels produisent moins. Comme ils produisent moins, ils émettent moins, donc ils ont tous trop de quotas par rapport à ce qui était prévu initialement. Donc ils veulent tous vendre, et donc le prix baisse. Et le point bas donc atteint en 2009, c'est 8 euros. Mais ça, c'était il y a 3 ans, et aujourd'hui... si on regarde ce qui se passe en 2012, je ne l'ai pas sur un graphique, mais on est encore plus bas. On est en dessous de 6 euros la tonne. Alors, pourquoi c'est un problème? Quand j'ai été en 2009 voir la Commission avec ces graphiques-là, je dis à la Commission, mais ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas laisser ça. Parce que c'est une catastrophe. Et la Commission dit non, c'est bien. Parce que si les prix baissent dans les périodes de récession, ça veut dire que le marché fonctionne bien. Je dis non, ça veut dire que le marché fonctionne mal. Parce que évidemment, on pourrait dire que c'est une bonne nouvelle. Dans la période de récession, les entreprises ont déjà des difficultés, donc c'est bien qu'elles ne payent pas trop cher leurs émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est la vision de la Commission. Ma vision à moi, c'est pas la même. C'est de dire, bah oui, mais ça favorise les entreprises les plus émettrices de gaz à effet de serre. Et ça va tuer toutes celles qui avaient parié sur un prix du carbone élevé. Toutes les entreprises qui se sont lancées dans les énergies renouvelables du temps où le prix de la tonne de carbone était à 25 euros, en pariant sur le fait que le prix de la tonne de carbone allait rester à 25 euros et que donc elles auraient été rentables. Eh bien, quand le prix de la tonne de carbone est à 6 euros, elles ne le sont plus et elles meurent. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce marché-là encourage la survie des entreprises les moins vertueuses et tue dans l'œuf tous les projets innovants et toutes les choses les plus vertueuses. Alors, c'est exactement le contraire de ce qu'on veut faire. C'est quand même un petit peu embêtant. Et justement, le projet ULCO, c'est la même chose. Pourquoi le projet ULCO, ce n'est pas rentable? Bon, il y a toutes sortes de problèmes techniques, etc., dans lesquels je ne veux pas rentrer, c'est sûr. Mais il y a un autre problème qui est que, comme je le disais tout à l'heure, ça serait rentable si la tonne du carbone était plus chère. Mais avec une tonne de carbone à 6 euros, ben ça ne l'est pas. Et à une tonne de carbone à 6 euros, c'est rentable de brûler du charbon. Eh oui, je suis désolé, mais c'est rentable de brûler du charbon. Et c'est pour ça que ce problème de signal de prix est tout à fait essentiel. Pourquoi aux États-Unis on ne fait rien? Ben parce qu'actuellement, avec du gaz de schiste aussi bon marché, on n'a pas envie de renchérir le coût de l'énergie, on n'a pas envie de mettre un prix sur le carbone parce qu'on pense que ça va nuire à certaines industries. Et c'est certain, ça va nuire à certaines industries. Mais en même temps, avec un prix du gaz de schiste aussi bas, on peut être sûr que toutes les énergies renouvelables, tous les projets innovants qui économisent de l'énergie ou qui économisent du carbone, ben, ils ne vont pas voir le jour. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils ne vont pas voir le jour. Et donc, le choix auquel on est confronté en Europe, c'est celui-là. C'est celui de savoir si on a envie de favoriser l'émergence de ces technologies-là en leur donnant des conditions de rentabilité suffisantes pour qu'elles soient économiquement viables ou pas. Alors ça suppose deux choses. Première chose, il faut que sur le marché du carbone, la Commission européenne se résolve à gérer le marché. Gérer le marché, c'est très simple en réalité. La Commission sait comment faire. Madame Hedegaard, qui est la commissaire au climat, l'a même annoncé il y a quelques semaines. C'est très simple. Il suffit de retirer des quotas. Il y en a trop. Si on veut faire remonter le prix, il faut réduire l'offre. Ce n'est pas compliqué. Donc, il faut racheter. On a fait ça pendant des décennies dans les marchés agricoles. Quand le prix du blé était trop bas, on achetait du blé pour faire remonter le prix. Quand le prix du beurre était trop bas, on achetait du beurre pour faire remonter le prix. On ne veut plus le faire pour les prix agricoles parce que ça fait des stocks. Mais dans le cas des droits à polluer, ça ne fait pas de stock puisqu'on retire simplement des droits. Donc c'est tout, ce n'est pas compliqué. Donc on sait faire. Et depuis quelques mois, la Commission commence à dire, et là vous voyez quand même que moi et d'autres, on a peut-être contribué à faire réfléchir un peu la Commission, que oui, ils vont le faire. Mais il se trouve que certains pays européens sont farouchement hostiles à ça. Les Allemands, les Polonais et quelques autres sont opposés. Et donc, pour l'instant, la Commission ne peut pas bouger parce qu'elle a besoin de l'appui du Conseil ou elle a besoin que le Parlement se prononce là-dessus. Donc, ce qu'elle espère maintenant, c'est que le Parlement européen va se prononcer dessus. Si le Parlement européen se prononce dessus, elle le fait. Et là, on va pouvoir faire remonter les prix. Donc, ça, c'est la première solution. La deuxième, eh bien, c'est la fiscalité environnementale. Et notamment la fiscalité carbone. Alors là-dessus, je voudrais être très clair. Plus on en parle, moins on en fait. C'est vraiment un domaine absolument désespérant. On n'a jamais autant parlé de fiscalité environnementale, on n'a jamais autant parlé de fiscalité carbone, etc. Quand on regarde ce graphique, par exemple, qui concerne la France, mais c'est la même chose qui concerne l'Union européenne, c'est la même chose à peu près dans tous les pays de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la fiscalité environnementale est montée en puissance dans les années 80 et 90 dans tous les pays d'Europe. Mais on voit que depuis le début des années 90, il y a un plateau. Et depuis le début des années 2000, ça baisse. Hein? C'est-à-dire, on a de moins en moins recours à cet instrument. Hein? Donc, plus on en parle, moins on en fait. C'est dramatique. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, ce qu'il faudrait faire, donc là, vous avez la même chose, mais pour les différents pays, on voit que certains pays sont plus sérieux que d'autres. Mais néanmoins, ça reste quand même assez faible, puisque vous voyez que c'est en gros autour de 2% du PIB en moyenne européenne, les recettes de la fiscalité environnementale, et que notamment la fiscalité sur l'énergie dans beaucoup de pays est très basse. Vous voyez qu'au Danemark, On a une fiscalité sur l'énergie qui représente un peu plus de 300%. Donc, ça veut dire quand le prix hors taxe est 1 euro, le prix toute taxe est 4 euros. Hein? D'accord? Bon, donc là, c'est déjà assez sérieux. Mais vous voyez que la France, elle est ici, donc c'est 170-180%. Hein? Et ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'en réalité, la part des taxes dans le prix de l'essence, par exemple, n'a cessé de baisser depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'en fait, le prix de l'essence augmente, bien sûr. Mais ce qui augmente, c'est le prix hors taxe. Ce n'est pas les taxes. Puisque en France, à part la TVA, mais la taxe sur les carburants, c'est ce qu'on appelle une accise, c'est-à-dire c'est un certain montant par litre. Ce n'est pas un pourcentage par euro, c'est un montant en euros par litre de carburant. Donc ce montant, il est fixe depuis des années, il n'est pas indexé. Et donc ça veut dire qu'en pourcentage du prix du litre, ça ne cesse de baisser, en fait. Et c'est vrai pour à peu près toutes les taxes sur les énergies, un peu partout en Europe. Et donc on a cette situation paradoxale que dans pratiquement aucun pays d'Europe, on a une taxe carbone, que dans presque tous les pays d'Europe, la part de la fiscalité qui pèse sur les énergies fossiles diminue. Alors que on, soi-disant, se donne pour objectif de réduire la consommation de ces énergies. Et donc, ce qu'on fait, c'est que finalement, on compte sur deux choses qui sont l'une et l'autre très mauvaises. La première, c'est l'augmentation du prix mondial du pétrole, qui, de toute façon, inéluctablement, va nous conduire dans des zones où les énergies fossiles vont devenir plus chères, mais cette fois, ça va dans la poche des producteurs de pétrole. Par exemple, ce que le gouvernement socialiste a fait il y a quelques mois en France, et qui est une catastrophe, de réduire de 3 centimes la fiscalité sur les carburants pour tenir un engagement électoral stupide, c'est épouvantable. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on file 350 millions à l'Arabie Saoudite, en gros. Parce que ça solvabilise la demande. Ça fait baisser le prix. Et dans la poche de qui ça va? Ben, des producteurs de pétrole, puisque de toute façon, ça permet aux consommateurs d'en acheter plus. Donc, c'est les producteurs de pétrole qui s'y retrouvent dans cette affaire. Est-ce qu'on avait besoin de donner 350 millions à l'Arabie Saoudite en ce moment, alors qu'on a tellement de mal à boucler nos fins de mois? Ben, non, à mon avis, pas vraiment. Ils n'ont pas besoin de ça. Et nous, on en a besoin pour autre chose. Donc, ce n'était pas une très bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ces conditions? Et ça, donc j'en arrive aux solutions. Donc sur le marché du carbone, je l'ai dit, on pourrait remonter le prix. Sur la fiscalité, je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin donc d'une fiscalité qui, comme je l'ai dit, envoie les bons signaux de prix. Ça, c'est la première chose. Donc, on a besoin d'une fiscalité qui pèse finalement sur les deux choses que peut-être les gens aiment le moins. Qu'on taxe, bon, mais c'est pour ça que ça pose un problème d'économie politique. Première chose, c'est la consommation. La France, hélas, depuis des années, ne cesse d'alléger la pression fiscale sur la consommation. Si on compare avec les autres pays européens, on s'aperçoit qu'on est à peu près le seul pays à faire ça. Et donc, l'histoire de la TVA sociale de Sarkozy ou la nouvelle mouture du gouvernement Ayrault, n'est pas absurde de ce point de vue-là. Parce qu'on voit bien qu'on est là sur un sentier qui est complètement différent de ce que font tous les autres pays européens et qui a de très bonnes raisons de taxer la consommation. Il y en a au moins deux. La première, c'est que en termes de compétitivité, la TVA, comme vous savez, est un instrument assez efficace puisqu'on taxe les importations et on ne taxe pas les exportations. Donc, c'est une manière de prélever des recettes qui est, disons, économiquement efficace. Et c'est d'ailleurs, comme vous le savez, une invention française. C'est, je pense, même l'invention française qui s'est la mieux exportée dans le monde puisque à peu près tous les pays du monde, ou presque, ont adopté un système de TVA à la française. Il n'y a que les États-Unis, en gros, qui ont résisté parce qu'ils avaient un truc un peu différent qui n'est pas si différent que ça. Mais disons que, bon, donc on peut être fier au moins d'avoir exporté ça. Et je vais revenir en conclusion sur une proposition pour exporter un autre produit du même genre. Donc, même si ça ne rapporte rien en droit d'auteur, mais au moins, on a la satisfaction de voir que les autres nous imitent. Et la TVA, je vous rappelle, a été inventée en France en 1954, c'est-à-dire juste avant que la France se lance dans le grand bain du marché commun, etc., etc., parce que justement, Maurice Loret, qui était l'inventeur de la TVA, avait bien compris que c'était un instrument très efficace pour remplacer les droits de douane. Parce que c'est exactement ça. La TVA, c'est une espèce de protection déguisée. Hein. C'est comme du droit de douane qui ne dit pas son nom, puisqu'on taxe les importations et on détaxe les exportations. Bon. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la consommation n'est pas délocalisable, pour l'essentiel. C'est-à-dire, on consomme là où on habite, pour l'essentiel. Pas complètement, hein, pas complètement. On a toujours, évidemment, Amazon et quelques autres qui s'installent au Luxembourg pour nous tailler des croupières. Mais, et comme vous savez, le Luxembourg est comme par hasard le pays d'Europe qui a le taux de TVA le plus bas. Et c'est justement là que s'installent nos petits amis Amazon et quelques autres. Mais bon, ça, c'est un petit manque de volonté politique au niveau européen. Si on voulait vraiment s'en donner les moyens, on mettrait un terme à toutes ces choses-là. Hein. Il suffirait que l'Allemagne et la France décident que ça s'arrête pour que ça s'arrête. Hein. Donc, si on ne le fait pas, c'est juste parce qu'on n'a pas la volonté politique de le faire. Parce que si on disait à Amazon, bon, les petits gars, si vous acceptez pas de payer la TVA en France et en Allemagne, vous n'avez plus le droit de vendre sur le marché français et sur le marché allemand, ben, je pense qu'ils réfléchiraient à deux fois avant d'abandonner ces marchés-là. Hein. Il ne faut quand même pas oublier que l'Union européenne est, pour l'instant, le plus grand marché du monde hein, et le plus riche. Donc, les entreprises ont tout intérêt à continuer à vendre chez nous, qu'elles soient de chez nous ou pas. Il ne faut pas oublier ça. Donc, la TVA, c'est important pour ça. Et accessoirement, c'est important aussi pour autre chose, c'est qu'il y a de bonnes raisons de penser qu'on pourrait avoir une économie aussi efficace si on consommait un peu moins, notamment un peu moins de ressources naturelles, et de produits basés sur les ressources naturelles. Donc, on pourrait imaginer une TVA qui favorise plutôt les services et les industries intensives en main-d'œuvre et défavorise plutôt les choses intensives en ressources énergétiques. C'est tout à fait imaginable. C'est d'ailleurs dans cette direction-là qu'on s'oriente avec le taux intermédiaire qu'on nous promet à 10% pour la restauration, le bâtiment, etc. C'est-à-dire toutes ces industries qui sont intensives en main-d'œuvre. Donc ça, c'est tout à fait possible. Deuxième chose, c'est donc la taxation des énergies fossiles et du carbone. Alors, il y a des problèmes techniques. Il y a des problèmes techniques qui tiennent au fait que, d'une part, on a de la concurrence intra-européenne, hein, la concurrence fiscale. C'est-à-dire, certains pays européens traînent les pieds, certains pays ne veulent pas. Et donc, on est confronté là à une difficulté qui est, en Europe, les décisions en matière fiscale sont soumises à la règle de l'unanimité, c'est-à-dire que si même un seul pays s'y oppose, on ne peut pas décider. Alors pour l'instant, on s'est laissé bloquer par cette décision-là, mais en même temps, on sait par exemple que les Anglais s'opposent à peu près à tout, donc voilà, la messe est dite d'une certaine façon. Hein. Mais en même temps, il existe maintenant dans le traité de Lisbonne des manières de contourner ça, et notamment ce qu'on appelle les coopérations renforcées. C'est-à-dire qu'on sait qu'un groupe d'États peut aller de l'avant sur certaines matières, même par exemple la fiscalité, sans que tout le monde soit d'accord, à condition que les autres acceptent qu'ils aillent de l'avant. Donc ça, ce serait une possibilité déjà. Et je pense que si la France et l'Allemagne, déjà plus quelques autres, allaient dans cette direction-là, ça serait un gros progrès. Alors, quelle direction? Ce que propose la Commission actuellement, c'est une espèce d'approche assez minimale qui consiste à dire, eh bien, on va réviser la directive qui concerne la taxation des carburants et qui fixe des seuils minimums pour les taxes sur les carburants fossiles dans tous les pays de l'Union. Et on va faire que ces seuils soient un peu plus élevés et qu'ils soient en fonction des émissions de gaz à effet de serre, alors que pour l'instant, ils ne le sont pas. Ce serait une manière indirecte de faire une taxe carbone qui ne dirait pas son nom, mais seulement sur les carburants. Et pendant ce temps-là, les industries lourdes seraient encore soumises au marché du carbone. Donc, on aurait d'un côté les carburants avec une fiscalité sur l'énergie fossile, de l'autre côté, le marché du carbone pour les industries lourdes, aucune articulation entre les deux. L'autre solution qui est, moi, à ma faveur, c'est une solution plus ambitieuse qui consisterait à créer ce que j'appelle une taxe sur le carbone ajouté. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'allais proposer un nouveau produit d'exportation. La TCA, inspirée de la TVA d'ailleurs, je n'hésite pas à le dire, c'est le même principe. L'idée est assez simple, l'idée c'est de dire on va taxer chaque produit en fonction de la quantité de carbone émise à chaque étape de la production et de la distribution de ce produit, donc la quantité de carbone ajoutée par chaque intermédiaire, depuis le début de la production de matière première jusqu'au consommateur. Et en ce sens-là, c'est comme la TVA, c'est-à-dire chacun déduit de ce qu'il doit les émissions qui ont déjà été acquittées au stade antérieur. Donc l'avantage, c'est le même que celui de la TVA, c'est-à-dire qu'il y a une incitation à la double déclaration et donc chacun sert de contrôleur fiscal pour l'autre, ce qui est toujours un bon truc. C'est pour ça que la TVA est un système génial, en fait, parce que, bon, il y a des fraudes, évidemment, hein, mais il y a cette idée que dans la TVA, il y en a toujours un des deux qui a intérêt à faire la déclaration. Et donc, ça permet à l'administration fiscale de faire des recoupements. Là, ce serait la même chose, mais pour le carbone. Et alors, l'avantage de ce système-là, c'est que le prix du carbone serait le même pour tous les biens, que les industries qui sont déjà soumises au marché européen du carbone pourraient faire valoir ce qu'elles ont déjà payé comme quota pour déduire ce qu'elles doivent sur cette taxe, que le consommateur final, du coup, aurait les bons prix, les bons signaux de prix, que toutes les importations seraient taxées et les exportations exonérées, et donc qu'on n'aurait pas ce problème de délocalisation, des incitations pour les entreprises à se délocaliser, et en même temps que ça résoudrait ce que j'appelle le problème Florange, si vous voulez, ou le problème Ulcos. Hein. C'est-à-dire, Ulcos deviendrait rentable, à supposer qu'il soit techniquement maîtrisé. Il deviendrait rentable. Parce que du coup, l'acier importé de Chine et qui émettrait plus de carbone que celui de Florange, eh bien, il serait taxé et il serait à un prix plus élevé que celui produit à Florange. Donc, si vous voulez, on a avec ce système-là, je n'ai pas dit la baguette magique parce que ce serait un peu excessif, mais disons, en tout cas, un système qui permet, avec les outils de l'analyse économique et avec, encore une fois, la fiscalité, de résoudre tous ces problèmes d'incitation et de, on pourrait dire, de réindustrialiser l'Europe d'une certaine façon. Parce que, vous voyez, que par exemple, quand on discute avec des gens comme Lafarge, cimentier, Lafarge, ils vous disent, ben oui, nous, on est d'accord, on est pour. Pourquoi ils sont pour? Parce qu'ils savent qu'ils ont des procédés techniques qui leur permettent de faire du ciment qui émet beaucoup moins de gaz à effet de serre que leurs concurrents marocains ou chinois. Et que donc, si on taxe plus leurs concurrents qu'eux, ben, ils sont contents. Ils sont contents parce que ça rend leur procédé à eux plus rentable. Et donc, vous voyez qu'en fait, l'histoire, c'est que ça peut être intéressant pour tout le monde. Alors, vous me direz, il y a un petit souci quelque part, c'est que quelqu'un va payer. Oui. Qui va payer? Ben, le consommateur. Oui. Ça pose problème. Oui. Comment on fait? Ben oui, il va falloir essayer de résoudre ça. Alors, comment on fait? Ben, on a bien vu en 2009, avec le projet de taxe carbone Sarkozy, que l'espèce d'usine à gaz qui avait été imaginée pour redonner aux consommateurs ce qu'on lui prenait, c'était pas très convaincant. Donc, il faut essayer d'éviter ça. Et en même temps, on sait bien qu'il y a un problème avec la fiscalité écologique, c'est qu'elle pèse relativement plus sur les ménages les plus modestes. Parce que, tout simplement, la part de leur budget qu'ils consacrent à l'énergie, etc., est plus élevée que les ménages plus aisés. Parce que, aussi, dans les tendances d'urbanisation qu'on a laissé s'installer en France depuis une trentaine d'années, le périurbain extensif et surtout le fait de gens relativement modestes qui ont besoin d'utiliser leur voiture pour aller travailler, pour aller mener leurs enfants aux activités récréatives et à l'école, etc., etc. Et que donc là, on est très embêté. Alors, on est très embêté, et qu'est-ce qu'on fait ? Alors, d'abord, la première chose que je voulais montrer, c'est que...
Et il n'y a pas un inconvénient au niveau de l'ordre administratif sur l'ensemble des boîtes ?
Alors, il y a un petit souci technique, mais qui, à mon avis, sera vite surmonté, c'est la question de la comptabilité carbone. Il faut faire une comptabilité carbone. Mais en gros, on sait faire. Il y a déjà plein de boîtes qui font la comptabilité carbone. Il faut la généraliser, mais... Bon, ça, c'était l'objection que m'a faite, évidemment, les gens de la commission en me disant quand même, il va falloir une nouvelle comptabilité, ça va être coûteux, etc. Je dis, mais attendez les gars, quand on a mis en place la TVA, il n'y avait pas de comptabilité TVA dans la plupart des entreprises. Et au début, on a fait du forfait dans l'agriculture, dans certains commerces, etc. Parce que il n'y avait pas la bonne comptabilité. Mais en même temps, chaque fois qu'on veut inventer une nouvelle assiette fiscale, il faut développer la comptabilité qui va avec. Ça, c'est inévitable. Quand on a introduit l'impôt sur le revenu en France, il a fallu que les gens puissent déclarer leurs revenus et que l'administration fiscale puisse contrôler les revenus des gens. Bon. C'est inévitable. L'innovation fiscale implique que... Et moi, je dis la fiscalité du 21e siècle, elle doit être principalement là-dessus. Si elle est principalement là-dessus, il va falloir se donner les moyens pour évaluer ce qu'on appelle l'assiette, c'est-à-dire le carbone. Bon. Et effectivement, au début, il va falloir utiliser sans doute des cotes mal taillées. Mais je suis raisonnablement confiant sur l'avenir. C'est-à-dire, je vois par exemple qu'il y a déjà aux États-Unis des entreprises d'audit comptable qui sont en train de développer des normes de comptabilité carbone. Donc, elles vont être les premières, une fois de plus, à imposer sur le marché mondial des normes. Et nous, comme des idiots, on va attendre que les Américains nous les imposent. Puis on va dire, c'est les Américains qui ont développé les normes de comptabilité carbone et on va être obligé d'adopter les leurs. C'est pas très malin. On ferait mieux d'être un peu plus... d'anticiper un peu plus et d'essayer de développer justement nos outils. On sait faire. Hein. Il y a des gens, on a parlé tout à l'heure d'Alain Grandjean. Alain Grandjean a une boîte de conseil qui fait ça, hein, qui fait de la comptabilité carbone, des bilans carbone pour les boîtes. Il sait faire. Donc, il y a des gens qui savent faire ça. Bon, on peut généraliser ça. Mais en deux mots, juste sur la question de des inégalités, qui est vraiment cruciale, évidemment. La question des inégalités... et notamment pour les carburants. Alors, d'une façon générale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à terme, il faut évidemment encourager ce qu'on appelle la sobriété énergétique. C'est ça l'objectif, évidemment. La sobriété énergétique, ça veut dire avoir le même niveau de vie et le même niveau de confort, ou même plus, mais en consommant moins d'énergie fossile et moins d'énergie en tout. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut isoler les logements, ça veut dire toutes ces choses-là, c'est très cher, évidemment. Et parfois, je dis, c'est un peu, la transition énergétique, c'est un peu comme une guerre sans guerre. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il faut détruire ou transformer presque tout le capital existant pour le remplacer par du capital plus efficace en énergie. Et ça, c'est très générateur de croissance économique. C'est comme les guerres. On n'a jamais autant cru qu'après la Seconde Guerre mondiale, parce que tout était cassé, il fallait tout reconstruire. Bon, et bien là, c'est pareil, il faut tout casser pour tout reconstruire. Et ça, c'est formidable pour la croissance. Simplement, c'est coûteux. Ça veut dire qu'il faut sacrifier un peu de consommation pour investir. Alors, le problème, c'est que les gens les plus modestes, évidemment, n'ont pas forcément ni les moyens ni l'envie de sacrifier leur consommation présente pour une vie plus sobre en énergie dans le futur. Et donc, il y a des problèmes à la fois de liquidité et puis des problèmes de solvabilité. Le problème de liquidité, c'est par exemple, si on fait l'isolation thermique des logements, ça veut dire que les gens consomment moins d'énergie. Et donc, ils vont faire des économies, parce que l'énergie va être de plus en plus chère. Mais la question, c'est, est-ce qu'ils peuvent payer maintenant le coût de l'isolation thermique ? Et là, il y a des instruments très simples. Par exemple, les prêts à taux zéro par le gouvernement, ça permet de résoudre le problème. C'est-à-dire, si on dit, c'est un problème de liquidité, vous allez faire des économies dans l'avenir, mais vous n'avez pas les moyens aujourd'hui de financer l'investissement qui vous permet de faire des économies. Donc, moi, je vous avance l'argent, sans coût, et vous me rembourserez sur les économies que vous allez faire dans le futur. Donc, il y a des choses qui sont possibles. En matière de transport et notamment d'essence, je voulais d'abord montrer ce petit graphique très rapidement. Ici, vous avez ce qu'on appelle le prix réel, c'est-à-dire les prix en tenant compte de l'inflation, c'est-à-dire hors inflation. Si vous voulez. Et ici, vous avez quatre courbes, ça vient de l'INSEE, hein, c'est pas moi qui ai inventé ça. Il y a des gens très incrédules qui disent « non, c'est pas possible, c'est pas possible ». Je dis « oui, si, c'est l'INSEE qui a fait ça, c'est pas moi ». Et regardez bien. Ici, vous avez en bas le prix de l'essence. Ici, vous avez le prix réel des loyers, hein, en bleu. Ici, vous avez le revenu disponible réel par habitant. Et ici, vous avez le prix réel des logements anciens. Bon, voilà. Ce qu'on voit, c'est que si on prend en base 1 en 1960, on s'aperçoit que jusqu'en 2006, le prix de l'essence n'avait pas cru plus vite que la moyenne des prix à la consommation. C'est-à-dire, le prix de l'essence en 2006 est le même qu'en 1960 en termes relatifs. Oui, toute taxe comprise. Alors que le revenu réel par habitant a été multiplié par 3, donc en part dans le budget en moyenne, un litre d'essence coûte 3 fois moins en 2006 qu'en 1960. Et par rapport au logement, au prix du logement, alors là, c'est carrément sans commune mesure. Vous voyez que les prix du logement ont explosé, ils ont été multipliés par 6. Exactement. Exactement. C'est-à-dire que du coup, on comprend bien pourquoi il y a cette périurbanisation galopante, qui est que les gens s'éloignent de plus en plus, parce que le prix du foncier, dans les centres-villes notamment, étant de plus en plus inabordable, évidemment, on est obligé d'aller de plus en plus loin. Et comme le coût de l'essence est de plus en plus faible, eh bien, on va de plus en plus loin, effectivement. Et donc, on voit bien qu'il y a là un problème assez sérieux. Alors, vous me direz-vous, mais alors, du coup, il n'y a qu'à augmenter le prix de l'essence. Pourquoi c'est un problème politique? C'est parce que, je vais dire les choses d'une manière un peu brutale. En 1960, il y avait que les riches qui avaient des voitures. Aujourd'hui, il n'y a que les pauvres qui utilisent leurs voitures. C'est un peu caricatural ce que je dis là. Mais
les riches en centre-ville.
Ben oui, exactement. Les riches n'en ont pas besoin. Ils peuvent l'utiliser. Et ils ont les moyens, d'ailleurs, de l'utiliser. Mais ils ne sont pas obligés de l'utiliser. Tandis que les pauvres, eux, sont obligés. Et donc là, on est dans une situation politiquement compliquée, quoi. Qui est qu'il va falloir augmenter le prix de quelque chose qui pèse massivement sur les foyers les plus modestes. Et c'est pour ça que cette réforme fiscale, on ne peut pas la faire sans l'inclure dans une réforme fiscale plus large, dans laquelle il va falloir repenser tous les mécanismes redistributifs et toute la progressivité du reste. C'est-à-dire de dire, oh, il faut compenser ça. C'est-à-dire, il faut que tout ça soit cohérent. Ce n'est pas si compliqué que ça. Je vais vous donner juste un petit exemple qui vous montre que même dans des pays qui ne sont pas bolcheviques, on peut faire des choses audacieuses. Les Pays-Bas, qui ne sont pas réputés, que je sache, pour être le royaume du socialisme triomphant, aux Pays-Bas, figurez-vous, le logement social représente à peu près 50% de l'habitat, hein, dans un pays quand même qui fait 16 millions d'habitants, c'est-à-dire même presque un quart de la France. Bon. Le logement social représente presque la moitié du parc résidentiel. Et il n'y a pas de conditions de ressources, ou du moins, il n'y avait pas de conditions de ressources pour accéder au logement social jusqu'à les 2 ans. Et vous savez combien est le loyer maximum le plus grand appartement qu'on peut avoir dans le logement social aux Pays-Bas? Vous ne le devinerez jamais. 653 euros par mois. 653 euros par mois. C'est-à-dire qu'aux Pays-Bas, le maximum que quelqu'un paye pour se loger, c'est 653 euros. Si vous payez 653 euros par mois, vous pouvez vous permettre de gagner un peu moins, etc., etc. Donc vous voyez, en fait, il y a un ensemble de politiques. Ces instruments-là, on peut les utiliser même en restant dans une économie libre et une économie de marché et en même temps agir sur la répartition des niveaux de vie. Et donc, je crois que c'est vraiment dans cette direction-là qu'il faut réfléchir. On doit, me semble-t-il, aller vers plus de fiscalité écologique. On a maintenant des instruments qui nous permettent de le faire. Il faut compenser d'une manière intelligente les effets que ça a sur la répartition du pouvoir d'achat des différentes catégories de ménages. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, sans doute, mais en même temps, ça plaide pour une vraie réforme fiscale, c'est-à-dire quelque chose de global et pas le millefeuille ou les rafistolages qu'on n'arrête pas de faire en France, du genre, on remet un petit machin ici, puis tiens, on met un petit machin là, puis on enlève ceci, puis on remet cela. Je t'enlève de la TVA sociale, mais je te remets un petit peu de charge sociale à la place, puis je te remets un peu d'imposition sur les plus-values de cession de la résidence secondaire, etc. Ça suffit, ces trucs-là. Ça suffit. Parce qu'il y en a déjà trop. Je veux dire, la France est le pays qui est le plus complexe en matière fiscale. Donc ce pourquoi je plaide ici, c'est une réforme qui simplifie aussi, c'est-à-dire qui clarifie tout ça, hein, qui mette plus l'accent sur ce qui me paraît plus urgent et qui clarifie l'ensemble. Quoi. Voilà. Merci, je crois que je suis à peu près à la fin, mais s'il y a quand même encore une question, il doit rester encore 2 minutes ou 3 minutes. Hein. Désolé, je vous ai un peu assommé. Oui, il y en a deux quand même.
Je comprends pas pourquoi vous dites que cette taxe sur le carbone ne s'appliquerait pas au produit exporté. Dans la mesure où on produira des gaz carboniques.
Oui, oui. Non. Je dis, on peut ne pas l'appliquer aux produits exportés. Hein. C'est-à-dire, comme la TVA. Oui, oui, mais on peut. Oui, oui, mais c'est comme la TVA. Vous faites de la valeur ajoutée, vous la faites, mais quand vous exportez, elle n'est pas taxée. Et bien là, on pourrait décider que les gaz carboniques émis pour les produits qu'on exporte ne sont pas taxés. Ce serait un peu salaud, je dois le dire. Mais en même temps, si on veut faire de la compétitivité et si on veut faire comme la TVA, je pense que ce serait une bonne mesure. Et ce serait bien fait pour nos petits concurrents qui, pour l'instant, se moquent de nous. Et se disent, ces Européens sont en train de se tirer une balle dans le pied en essayant d'être vertueux en matière de carbone. Donc, c'est juste une mesure pour embêter les Chinois, on va dire.
Excusez-moi, mais si vous faites un parallèle avec la TVA, hein, qui veut dire qu'il y aura des remboursements de TCA.
Oui. Ah. Pareil. Ben oui, pareil. C'est déductible à chaque stade.
Parce qu'il y aura des exportateurs qui seront toujours structurellement au crédit de TCA.
Bien sûr. Oui, oui. Ben, c'est l'objectif en quelque sorte. Hein, parce que justement, l'idée de la TCA, c'est de ne pas nuire elle-même, de favoriser la compétitivité. C'est-à-dire de dire, mais on peut être plus vertueux et dire, ben, on va appliquer ça aux exports aussi. Moi, je veux bien. Les deux solutions sont possibles. Mais je dis simplement, la première, celle que je propose, elle a l'avantage d'être très favorable à la compétitivité des producteurs européens. Et on en a bien besoin.
Et qui récupère le produit de TCA ?
Alors, soit le budget européen, soit les budgets nationaux, comme c'est le cas actuellement pour la TVA. Pour la TVA, c'est le budget national. Donc pour la TCA, on peut dire que c'est les budgets nationaux aussi. Mais si on veut être ambitieux en matière de fédéralisme européen, on pourrait dire qu'il y en a une part qui va au budget européen.
Et ça, c'est compatible avec l'OMC.
Oui.
Vous savez très bien que le projet de TVA payé était prévu en 1993.
Oui,
transitoire.
Oui, je sais, mais de toute façon, du transitoire qui dure 20 ans, peut-être, oui, c'est du définitif. C'est comme les préfabriqués. C'est comme les préfabriqués dans les écoles ou dans les universités. Pour l'instant, les États ne sont pas très chauds, comme vous l'avez remarqué, pour un budget européen plus gros, mais peut-être qu'un jour, ça finira par changer. Je vous rappelle que la semaine prochaine, non, à la fin de cette semaine d'ailleurs, Van Rompuy est censé faire des propositions pour une union monétaire qui fonctionne mieux, et parmi ces propositions, il y a l'idée d'une espèce d'embryon de budget fédéral. Je n'y crois pas plus que vous, hein, mais enfin, c'est l'espoir qui fait vivre en même temps. Hein. Je me souviens, je conclurai là-dessus, que quand j'ai commencé mes études d'économie, mon doctorat d'économie, c'était en 77. Et en 77, il y a un rapport qui a été publié par l'Union européenne, donc plus personne ne se souvient, mais moi oui, qui s'appelait le rapport McDougall. Et le rapport McDougall, son titre, c'était le rôle des finances publiques dans le processus d'intégration européenne. Et ce que proposait McDougall en 1977, c'était pas autre chose que ce que notre ami Van Rompuy va proposer dans quelques jours, c'est-à-dire la création d'une espèce de petit embryon de budget fédéral pour la zone euro. Alors, je suis d'accord avec vous que les États ne sont pas prêts pour ça, mais petit à petit, ça va peut-être finir par arriver. Voilà.